Europe Matin.
Tu m'entends ?
Le 5-7. Simon Rubin.
Et on l'entend, Laurent Cabrol. Ben oui, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 6h et bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Le journal 6h.
C'est l'équivalent d'une deuxième pandémie, hein, ces variants. Hein. La course, en effet, se situe entre l'arrivée des variants et puis notre capacité à vacciner.
Et cette course, comme l'appelle Jean-François Delfraissy, qui la gagnera, les variants du Covid ou la campagne de vaccination, situation d'urgence décrite par le président du conseil scientifique qui appelle vite à un troisième confinement. Comme un bol d'air pour certains étudiants de première année, quelques heures de travaux dirigés, en présentiel presque une nouvelle rentrée, mais les craintes des professeurs, l'enseignement à distance pourrait avoir des conséquences sur le niveau des élèves, vous l'entendrez. Dans ce journal, les sociétés de transport s'adaptent aux nouveaux horaires des pics d'affluence du soir. On rentre plus tôt du travail dans les grandes villes. Et puis cette histoire qu'Europe 1 vous révèle, escroc, tel père, tel fils, récit d'une filiation de l'arnaque en fin de journal.
À suivre la page des sports avec Lénaïque Monnier et puis mon invité inattendu, on va parler des printemps arabes, 10 ans après la révolution égyptienne, et on en parlera avec un artiste, un chanteur. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a urgence, les mots hier soir de Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique sur BFM TV, estime un troisième confinement nécessaire et la décision doit être prise vite, estime-t-il.
Et s'il y a urgence, c'est en raison de la progression des variants du Covid-19 en France. Des contaminations grandissantes, détaillées par Jean-François Delfraissy, chiffre à l'appui.
C'est l'équivalent d'une deuxième pandémie, hein, ces variants. Hein. Nous avons une série de données qui montrent très clairement que le virus anglais est plutôt à des niveaux de 7, 8, 9% dans certaines régions françaises. La course, en effet, se situe entre l'arrivée des variants et puis notre capacité à vacciner. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces variants sont sensibles au vaccin? Le variant sud-africain et le brésilien ne sont pas neutralisés par des anticorps issus de patients ayant déjà fait un Covid, donc non-protection. Et enfin, dans des premières données, une étude américaine montre que sur le variant sud-africain, il y a une diminution de l'efficacité du vaccin d'environ 40%.
Reconfinement ou pas, décision discutée mercredi, Conseil de défense. Jean-François Delfraissy qui s'est par ailleurs montré sceptique hier sur le rythme des vaccinations. Le gouvernement espère qu'une large partie des Français sera vaccinée d'ici l'été. Ce sera plutôt 40% selon le médecin.
Et côté chiffres, le nombre de malades hospitalisés continue d'augmenter. Plus de 26 000 ce matin, un millier de plus qu'il y a une semaine. Près de 3 000 personnes sont en réanimation.
Vous avez entendu sur Europe 1 ces derniers jours la détresse 13 de ces étudiants qui souffrent de la fermeture des facs et des cours à distance. Aujourd'hui, certains vont retrouver les amphis des étudiants de première année uniquement pour des travaux dirigés par petits groupes de 10 maximum.
Et au-delà des difficultés psychologiques et économiques, les professeurs sont également inquiets du niveau des étudiants. Certains signent alerte les enseignants.
Témoignage d'Hélène Manuelian, directrice de la fac de sciences humaines de Cergy près de Paris. Elle est maître de conférences en linguistique.
On a évidemment des craintes sur le niveau parce que ce qu'on a pu observer pendant les examens, c'est des étudiants qui sortent de la salle plus tôt, qui rendent des copies blanches, voire certains qui pleurent devant les copies. Donc on a assisté à des choses extrêmement douloureuses de ce point de vue-là. On a déjà un peu perdu des étudiants, mais évidemment, les résultats risquent de décourager beaucoup de monde. Oui. Sur un amphi de 150, on en perd 30, ça fait un étudiant sur 5. Là, je pense qu'on a plutôt perdu un étudiant sur 3 aux inscriptions. Parce que, en fait, au deuxième semestre, les étudiants doivent s'inscrire dans les cours qu'ils choisissent. Donc, c'est comme ça qu'on voit si on en a perdu ou pas. On a un problème de niveau de connaissance et on a un problème aussi de rapidité d'avancement dans les programmes. On ne peut pas forcément aller aussi vite que ce qu'on fait en présentiel habituellement.
Hélène Manuelian, maître de conférence en linguistique, directrice de la fac de sciences humaines de Cergy, elle répondait pour Europe 1 à Virginie Riva.
Autre conséquence de la pandémie, on manque de bénévoles dans les associations d'aide aux personnes en difficulté. Des dizaines de milliers de volontaires, la plupart sont des retraités, des personnes à risque qui se protègent donc du virus.
Il a donc fallu tout revoir au sein de ces associations et quel casse-tête. Élise Dangean a constaté ces difficultés à la Banque alimentaire de Paris-Île-de-France.
Il y a des pâtes, il y a du riz, il y a des conserves, il y a des produits bébés.
Nicole ne manque pas de produits pour son ravitaillement de la semaine, mais elle manque de bras pour son association. Depuis le début de l'année, elle a 25 nouvelles familles à aider et toujours très peu de bénévoles.
C'est très serré. Je tire entre guillemets toujours sur les deux ou trois mêmes, mais c'est dur pour eux. Et enfin, moi, j'y suis tout le temps, je fais les courses, je fais le ménage, je fais tout. Mais à un moment, c'est épuisant.
Dans les banques alimentaires, 3 bénévoles sur 5 ont plus de 65 ans, un public à risque qui s'est mis en retrait. Alors vivement le vaccin, dit Stéphane, responsable de l'entrepôt d'Arcueil.
Par rapport au tout début de la pandémie, j'ai perdu quasiment la totalité de mes bénévoles. Donc oui, si eux pouvaient être vaccinés, qu'ils puissent revenir, on sent vraiment une volonté, une envie de revenir.
Alors heureusement, en attendant le retour des bénévoles historiques, l'association a pu compter sur de nouvelles recrues, étudiants, nouveaux chômeurs. Résultat, Pierre, 88 ans, est le doyen de l'Assemblée et il n'est pas inquiet.
Je fais attention et je vais me faire vacciner là.
Pierre, lui, a rendez-vous dans une semaine et demie, mais pour les autres, il va falloir encore faire preuve de patience.
Et on le rappelle, un 39% des bénévoles qui ne peuvent pas exercer leur bénévolat, notamment auprès des plus fragiles en ce moment à cause du Covid. On en parlera d'ailleurs avec mon invité de 6h40, Robert Sebag, qui est médecin et qui est administrateur d'Action contre la faim.
Et vous, votre quotidien a-t-il changé depuis l'instauration du couvre-feu partout à 18h? Vous quittez peut-être le bureau plus tôt. Les sociétés de transport, elles, se sont adaptées.
Parce que le pic d'affluence du soir dans les grandes villes intervient un peu plus tôt. Le point sur les derniers chiffres avec Aurélien Fleureau.
En région parisienne, le pic de fréquentation était jusque-là à 18h15. Cette hyper pointe du soir se situe désormais autour de 17h15, 17h30. C'est ce qu'a constaté Île-de-France Mobilité, qui a demandé à la RATP d'adapter son offre en conséquence avec plus de métros et de bus dès 15h30. Jusqu'à 18h, la fréquentation est en hausse de 15% avant de fortement chuter à partir de 19h. Les réseaux de transport ne ferment pas pour autant beaucoup plus tôt qu'avant. Il faut assurer un service pour ceux qui travaillent en décalé, rappelle Frédéric Bavré, directeur général France de Keolis.
On a assez peu réduit l'amplitude, notamment parce que l'enjeu, c'est de toujours continuer à desservir les établissements de santé qui ont souvent des horaires décalés avec des gens qui sortent tard le soir. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a réduit la fréquence pour s'adapter au fait qu'il y a objectivement moins de monde.
Keolis qui remarque que la fréquentation reste en baisse depuis début 2021, 65% par rapport à l'an dernier à Nancy, par exemple. Et c'est une inquiétude durable que nous confirme Transdev. Tous les opérateurs sont en pleine réflexion pour réduire l'offre, par exemple sur les bus qui desservent les universités faute d'étudiants, mais également pour enclencher le dispositif d'activité partielle de longue durée.
L'enquête se poursuit 10 jours après l'agression de Youri, un adolescent de 15 ans passé à tabac dans le 15e arrondissement de Paris. Il s'agit peut-être d'un affrontement entre bandes rivales. La mère du jeune garçon a été contactée par l'Élysée, a-t-on appris hier, de l'entourage d'Emmanuel Macron.
Et cette histoire à présent, quand l'arnaque et l'escroquerie se transmettent de père en fils. Europe 1 vous révèle ce matin cette histoire, cette affaire, l'arrestation le mois dernier d'un groupe d'escrocs qui extorquait de l'argent à des prêtres.
Une trentaine d'hommes d'église victimes entre 2018 et 2020. 8 personnes jugées au tribunal du Havre et à leur tête, des jumeaux dont le père a déjà été condamné pour des faits similaires. Justin Morin.
C'est une tradition transmise de père en fils. La cible privilégiée, des prêtres âgés en retraite, la plupart ont plus de 75 ans. Les jumeaux et leurs complices passent ensuite par le téléphone. Ils se présentent comme des paroissiens en détresse. Ils se font aussi passer pour des gendarmes pour prouver leur bonne foi. C'est ce qu'il s'est passé pour le père Joseph Dissac, 76 ans, installé dans l'Aveyron, embarqué dans une histoire d'emménagement.
Bien sûr, il y avait des problèmes pour payer la caution. On se laisse prendre par les sentiments. On a l'impression que la personne est complètement en désarroi. On imagine les larmes qui coulent. Je me dis, bon, si je peux faire quelque chose, pourquoi pas ? On se fait avoir, on se laisse avoir.
Pendant 3 jours, les escrocs ne le lâchent plus. Ils lui extorquent 3700 euros au nom de la charité chrétienne. D'autres victimes donneront bien plus encore. Au total, 150 000 euros de préjudice. Le père des jumeaux, plusieurs fois condamné pour des dizaines d'escroqueries de ce type, disait agir par vengeance après avoir été abusé enfant par des hommes d'église. Un crime originel qui pourrait bien ressurgir aujourd'hui au tribunal par la voix de ses fils.
Les révélations de Justin Morin. Et puis on a appris hier le décès de l'ancien député et sénateur socialiste Jean-Pierre Michel. Il fut l'un des grands artisans du Pax voté en 1999.
C'était le journal de Jérôme Lacroix, 6h09, place au sport.